Ce métier est très riche et très divers et a beaucoup d'aspects différents qu'on n'envisage pas. Ce n'est pas que habiller des gens. Moi, tout de suite, je suis en train de faire un spectacle qui est en solo et qui part de mon expérience. Mais l'envie de ces interviews, c'est aussi de vous rencontrer, de vous donner cet endroit pour vous exprimer, puis pour que moi aussi, je me reconnaisse peut-être un peu et que je puisse faire des propositions assez fidèles à ce qu'on est toutes.
La Servante, solo pour une habilleuse, le podcast. De passage à Paris, Carole a retrouvé Cécile dans un petit restaurant animé où la conversation s'est installée tout naturellement. Cécile est perruquière. Entre deux éclats de voix autour d'elle, elle a raconté son univers. Elle parle de son métier avec précision et sensibilité. Elle revient sur son parcours, ses inspirations et ce qui continue de nourrir son envie de créer.
Il y a un problème aujourd'hui de projection. Donc ce qui fait que pour nous, en fait, le métier est plus compliqué qu'avant. Nos anciens metteurs en scène savaient qu'on était un vrai métier à part entière et ne se limitaient pas dans la métamorphose qu'ils aimeraient avoir sur scène. Or aujourd'hui, la nouvelle génération ne sait pas forcément que c'est un métier, ne sait plus que c'est forcément un métier et surtout se limite dans la métamorphose. Donc on est beaucoup moins sollicité qu'on l'était avant en fait. Et surtout, par exemple, une personne arrive avec une barbe, ils ont du mal à se projeter sans la barbe. Ou typiquement un comédien avec qui moi j'ai travaillé, qui n'a pas de sourcils, qui n'était jamais retenu au casting, parce que les gens ne peuvent pas imaginer qu'il peut, il va pouvoir, si tu veux, avoir des sourcils en fait, qu'on va implanter et coller, ça fera ultra naturel. Je parle en spectacle vivant, en tout ce qui va être série, film, je fais une vraie distinction puisque là en plus maintenant c'est vraiment quelque chose qui se fait beaucoup et qui est très à la mode. Donc là, il y aura des moyens et on pourra proposer plus de choses. En spectacle vivant aujourd'hui, comme il y a de moins en moins de moyens, indépendamment de la méconnaissance de notre métier, il y a aussi, le fait qu'on saute les premiers. C'est-à-dire qu'on va limiter les perruques, surtout que, en plus, dans leur tête, une perruque, ça signifie forcément quelque chose de visible. Ça ne peut pas être conçu comme quelque chose d'invisible, comme un changement de couleur, par exemple, de cheveux, simplement, mais qui sera ultra naturel. Or que, aujourd'hui, en spectacle vivant, on travaille aussi finement qu'en théâtre. Parce que, justement, normalement, à chaque fois qu'on fait un spectacle, il va être capté, ensuite il va être filmé, et du coup la résolution doit être très belle, donc sauf si évidemment ça va être des choses cabaret ou auquel cas on va assumer la perruque, mais la plupart du temps, même nos perruques aujourd'hui en théâtre, on les voit plus. Donc c'est vraiment compliqué à démêler. Pour ça que je pense que c'est vraiment important, si tu veux, de participer au maximum au bord scène. Moi, par exemple, je vais beaucoup dans des écoles aussi expliquer ce que c'est que mon métier, de façon à ce que les gens sachent que c'est un métier et du coup soient sensibles à ce qu'on fait, aux perruques, au maquillage, dans les films, les spectacles, les choses comme ça. Et les gens sont très intéressés quand t'en parles en plus de ça. Ça qui est formidable, c'est que ils te posent plein de questions, savoir comment ça se passe, comment tu fabriques. Ils n'imaginent pas le temps qu'on va mettre à fabriquer une perruque, par exemple, si on va assez vite, c'est à peu près 10 jours de travail. Pour eux, ils imaginent perruque, on achète et ça y est, on l'a quoi. Donc voilà, là ça va être 10 jours d'implantation. Après, s'il y a une couleur à faire par-dessus, une coupe, il va falloir rajouter ce temps-là. Évidemment, là je te parle de perruque sur mesure. Mais du coup, c'est très très intéressant ouais, de pouvoir partager avec tous les âges d'ailleurs. Parce que là, j'ai eu la chance d'aller chez les apprentis d'Auteuil. Je ne connaissais pas du tout, moi, personnellement. Donc, il y a une structure, en fait, où ils accueillent des enfants, adolescents, et qui sont dans des difficultés familiales catastrophiques, et ils vont offrir à ces enfants un avenir. Et ces gens-là sont très très ouverts, donc ils font venir plusieurs personnes de différents métiers pour leur montrer qu'il existe tel métier, pour peut-être leur ouvrir une passion et les orienter dans ce métier-là. Et c'est vrai que moi, ça m'avait vraiment ému ce moment que j'ai passé avec eux, parce que les questions étaient très pertinentes et surtout, ils étaient très intéressés. Et je m'attendais pas à ça. Vraiment, c'était très émouvant de vivre ça. Et en même temps, je leur montre, du coup, tu vois, je fais des petits trucs, je leur explique comment on tatoue les gens, comment on fait une prothèse, comme ça devient vraiment ludique. Et ouais, c'est vrai, des vrais moments de partage très très beaux, quoi.
Oui, et puis c'est riche de pouvoir en parler parce qu'on bosse beaucoup toute seule.
C'est ça, c'est qu'en fait, quand nous, dans nos métiers, quand on a de la chance, on est en équipe, mais souvent, on est quand même, en tout cas sur les instants de fabrication, seul. Et comme c'est des métiers d'oralité et de manuel, si on est seul, on ne progresse pas. Donc il faut vraiment partager. Et puis c'est des métiers qui évoluent très vite, ne serait-ce que par les produits. Donc ça veut dire que il faut toujours te tenir au courant, sinon tu es has-been rapidement. Et puis du coup, tu t'auto-limites dans ce que toi, tu vas potentiellement pouvoir proposer et faire, quoi. Donc c'est dommage. Alors que, en plus, on a cette chance, c'est qu'on est dans une génération de partage. C'est-à-dire que moi, je me rappelle, au tout début de mon métier, ça partageait pas beaucoup. Les anciens, ils avaient la connaissance vraiment ultime. Hein. C'est incroyable le niveau qu'ils avaient, mais ils partageaient pas beaucoup. Alors que là, on est dans une génération où il y a un vrai partage intergénérationnel, et ça devient très enrichissant. Donc là, je pense que au niveau de la progression de ce qu'on peut proposer, on est plus rapide et, à mon avis, plus vrai. Puisque, de toute façon, on a changé de façon de travailler, ce que j'expliquais en spectacle vivant. Les maquillages qu'on faisait avant, qui étaient assez grossiers, etc., aujourd'hui, ça se fait plus vraiment, sauf occasionnellement, quand c'est vraiment une demande. Mais sinon, on nous demande de maquiller avec la finesse presque du HD, même en spectacle vivant. Ce qui, moi, me perturbe un petit peu, parce que je comprends l'enjeu de la captation, mais par contre, je pense toujours à la personne qui est au plus loin dans la salle. Du coup, je vois pas ce qu'elle voit, en fait. Parce que si on maquillait aussi de façon beaucoup plus appuyée, c'était aussi pour faire ressortir le visage, en opérant la bouche, en maquillant de façon assez naturelle comme au cinéma. Je pense que la personne qui est tout au fond de la salle sait que c'est quelqu'un, mais ne peut pas identifier réellement les sourcils, la bouche, etc. Donc ça, je trouve que c'est dommage aussi. Un petit peu. Je pense que ce qu'on fait en ciné-série, c'est évidemment, c'est du 4K maintenant, c'est presque à l'intérieur de la peau, donc il faut que ce soit très naturel, que ça se voit pas, etc. Mais nous, quand même, je pense, en spectacle vivant, je pense qu'il y a vraiment une nécessité d'appuyer pour faire ressortir la personne de loin, justement. Et ça, je trouve qu'on perd beaucoup.
C'est un peu le même symptôme en costume, quelque part, où la création contemporaine des natures est pure au maximum. Alors, tu comprends, mais il y a un moment... Et pour des questions de budget et pour des questions esthétiques, on se retrouve avec du prêt-à-porter ou des choses, et on fait perdre beaucoup de choses, mais on fait aussi perdre beaucoup de sens et beaucoup de nécessité au costume. Et
on te demande de faire beaucoup de contemporains. Donc moi, la dernière fois, c'est vrai que la saison dernière, j'ai eu un spectacle où il fallait coiffer les femmes comme quand on les voyait dans le métro. Quand elles sortaient de leur douche, tu vois, avec des pinces croco. Là, tu te poses question sur ton métier, parce que, n'importe quelle femme, je veux dire, qui prend sa douche, relève les cheveux avec une pince croco, c'était ce qui était demandé. Donc là, tu poses vraiment question, effectivement, sur ton métier, parce que moi, j'ai eu beau essayer d'apporter des choses différentes à la metteur en scène, c'était non catégorique, et tu fais ça, et c'est comme ça. Donc, c'est vrai que moi, j'ai du mal avec ça, encore. Vraiment, après, de toute façon, on ne me demande pas mon avis, hein, mais je trouve que c'est... On perd beaucoup, quoi. On perd beaucoup de notre savoir, justement, et puis de légitimité aussi. Puisque aujourd'hui, on nous demande de rendre des comptes à chaque fois qu'on fait quelque chose. Aujourd'hui, on nous demande d'être rentable. Donc ça, c'est un concept aussi. Je parle vraiment du spectacle vivant. Une personne a payé au minimum 90 euros sa place pour un opéra, qu'elle arrive et qu'ils sont habillés comme les gens dans le métro et coiffés comme les gens dans le métro. Il y a un vrai souci parce que finalement, on nous dit « Non mais vous étiez sur le spectacle ou pas ?» Là, pour justifier le pourquoi on était sur le spectacle, ça devient très complexe en fait.
Bah, parce que aussi, la projection de nos métiers s'arrête juste à l'objet. Mais il y a aussi tout le reste autour. C'est-à-dire, j'imagine que là, c'est... Même si la coiffure et le maquillage n'est pas... évident comme ça au premier coup d'œil, tout ce que tu fais, toute la préparation, le temps que tu passes à les préparer, à les mettre en
exergue, on les met en exergue quand même, mais
ça existe toujours.
Non mais tu sais, une personne qui va aller, je reprends l'exemple de l'opéra parce que bon, bah, c'est là où c'est le plus cher, une personne qui va aller voir Butterfly, si c'est le Butterfly de Wilson par exemple, bah, tout le monde est maquillé en blanc. Il y a vraiment une recherche que d'être transposé au niveau du monde des gaïchas. Okay, donc ça veut dire que le spectateur qui ne sait pas forcément que tu es derrière, toujours je parle perruquier, coiffeur, maquilleur, il voit qu'il y a quand même un travail. Donc là, il y a une vraie légitimité. Quand il vient et qu'il croise la personne qu'il croise tous les matins dans le métro, ça devient compliqué. Donc, surtout, nous, ce que je trouve aussi, ce que moi je déteste faire, c'est être mis en avant. Et là, je parle plus précisément, par exemple, de tout ce qui va être action sur scène à vue ou même des saluts. Mais aujourd'hui, je vais me forcer à le faire. Parce que quand on est tous là, au moment des saluts, là, le spectateur comprend pourquoi c'est aussi cher. Parce que parfois, ça nous arrive d'être plus nombreux en technique qu'ils ne sont sur scène. Et ça, c'est vrai que quand on n'est pas du métier, on ne peut pas l'imaginer. On ne peut pas imaginer le nombre de personnes qu'on a besoin pour faire telle et telle action pendant l'intégralité du spectacle. Parce que c'est pareil, les gens pensent qu'une fois que... tu les as préparés, tu n'as plus d'action. Or, en fait, tout au long du spectacle, tu as des actions, des changements, des choses comme ça. Ici, ce n'est pas des changements, des raccords sur les personnes dont tu t'occupes. Donc, on est actif en permanence. Et c'est vrai que j'ai une image à l'Opéra Royal à Versailles où... ils sont, je crois qu'ils étaient comme 20 sur scène et nous on était 60. Donc quand on est arrivé au moment des saluts, puisque nous notre directeur là-bas demande qu'on salue systématiquement, quand il y a la masse noire, c'est-à-dire tous les techniciens puisqu'on est en noir, c'est assez surprenant, ouais. Donc et à la fois c'est beau. Moi, ça me pétrifie toujours autant. C'est vraiment un exercice que j'aime pas. Mais je sens la nécessité de le faire aujourd'hui. Moi, je me suis fait enfermer dans un théâtre, ouais. À Bordeaux. À l'Opéra de Bordeaux. Et un opéra que je ne connaissais pas. Et on venait d'arriver. En fait, j'étais sur un très gros spectacle avec des préparations énormes. Donc des heures énormes, conséquentes. Et en fait, bah, tout le monde est parti. Ils m'ont oublié. Mais vraiment, véridique. Hein. Donc j'arrive, alors moi en plus j'ai pas trop le sens de l'orientation, donc je reprends le chemin par lequel on est rentré. Et là, bah, tout fermé, ne connaissant pas du tout l'opéra qui est immense quand même à Bordeaux. Bah, j'ai été côté public au bout d'un moment, j'appelais notre régisseur qui répondait pas pour lui dire bah, est-ce que tu peux joindre quelqu'un, voilà. Bon bref, ça a duré 20 minutes jusqu'à temps que je trouve, heureusement, grand heureusement, l'homme de ménage qui a pu me sortir de là en m'amenant dans les dessous de scène, enfin improbable, une circulation complètement improbable pour pouvoir sortir de cet opéra. Ouais. Ouais, ça a été un grand moment. Parce que autant quand je travaille au château de Versailles, puisque l'opéra est à l'intérieur, ou quand on fait... des prestations dans le château de Versailles, ça m'arrive très souvent d'être toute seule. Et je n'ai pas d'appréhension, peu importe que ce soit le jour, la nuit, ça ne me dérange pas du tout. Mais là, en fait, dans l'opéra de Bordeaux, je ne peux pas dire que j'ai eu peur, mais c'était pénible, quoi, parce que ça a duré, cette histoire, elle a quand même duré plus de 30 minutes, et j'avais commencé très tôt le matin, il était tard le soir, et j'avais envie de me poser, en fait. Donc voilà, et puis quand c'est des endroits que je connais, à la limite, je me dis, bon, bah, je vais pouvoir dormir là, j'en sais rien, trouver une solution. Mais quand c'est pas chez nous, en plus, avec des règles assez strictes, bah là, ça devient compliqué, quoi. Donc, ouais. Non, j'ai pas trop aimé l'expérience. Surtout qu'en plus, il y avait un numéro de téléphone, oui, qu'on pouvait joindre, qui était le PC sécurité, puisqu'à l'Opéra de Bordeaux, c'est comme dans beaucoup d'opéras, il y a des gens qui sont là 24 heures sur 24 et qu'en fait la personne ne répondait pas, quoi. Que je suis passée devant elle quand même au bout d'un moment et en fait elle était au téléphone pour des trucs perso, quoi. Donc voilà, quoi. Il faudrait plus durer un moment, quoi. Donc cet homme là, heureusement que j'ai croisé cet homme dans le théâtre, parce que sinon c'était, mais d'ailleurs très régulièrement, hein. En tout cas, moi, comme par exemple, si je vais tourner avec un spectacle, j'aurai pas des horaires forcément conventionnels comme dans un endroit assez strict, comme à l'Opéra Comique à Bastille, des choses comme ça, où là, c'est strict. Souvent, je remercie toujours les hommes et femmes de ménage parce que c'est souvent eux qui débloquent les situations. Typiquement, le dimanche matin, quand t'arrives, tout est fermé pour aller bosser. Avant que ta représentation, t'as toujours, comme t'as beaucoup de préparation, mais c'est eux souvent qui débrouillent la situation. Une loge, pareil, il te faut des clés, personne ne sait où sont les clés, c'est eux qui ouvrent, enfin, pour moi, c'est des gens essentiels. Et en plus, par rapport à mon métier aussi, qui inclut forcément l'hygiène et la propreté, c'est vraiment des gens, moi, systématiquement, c'est quasiment les premiers que je vois et les derniers que je vois, quoi. Partout où je vais, ouais.
Ouais, c'est assez dingue, ça. Et on est souvent les premières et les dernières parties aussi des équipes artistiques. Et je pense qu'on est... Et même technique, ouais.
Ouais, c'est pour ça, hein. C'est vraiment ces gens-là, heureusement qu'ils sont là, quoi. Vraiment. Bah, ce matin, j'arrive direct, hein. Bon, ici, il y a l'accueil et tout, tu connais, mais... La première personne sur qui tu tombes, c'est l'homme de ménage qui est gentil comme tout, avec un grand sourire, avec qui tu discutes. C'est un bonheur, quoi. Tu montes à ton étage, paf, c'est la femme. C'est formidable, quoi. C'est des gens formidables. Et puis, ouais, heureusement qu'ils sont là. Moi, je vis dans plusieurs situations grâce à eux. Sinon, j'étais pas bien. Après, moi, ça m'est arrivé... tu vois, de déclencher des alarmes aussi. En fait, typiquement, on était... on travaillait au Grand Palais. On avait un spectacle au Grand Palais. Et en fait, j'avais demandé l'itinéraire pour pouvoir accéder d'un endroit à un autre. Et en fait, heureusement, c'était pas en représentation. C'était une répétition. Et en fait, je suis passée et d'un coup d'un seul, l'alarme s'est déclenchée. Donc là, gros stress, parce que alors, comme je te disais tout à l'heure, moi on me voit, mieux je me porte, vraiment. Donc là, évidemment, bon, panique à bord. En plus, au musée d'or, enfin au Grand Palais, donc tu te dis, bon, quelle est, là, c'est pas comme si t'avais déclenché l'alarme où il n'y a pas d'enjeu, quoi. Là, il y a des tableaux somptueux, enfin bon, bref. Donc, ça m'est arrivé là. Et à Versailles aussi, ça m'est arrivé. Parce que ils ont oublié que j'allais passer. Donc ils avaient remis sous alarme et du coup tu déclenches les alarmes. Et là par contre, c'est bon, heureusement que Versailles est grand, mais techniquement les spectateurs auraient pu être embêtés par cette alarme. Donc ça, c'est vrai que c'est moyen, quoi. Mais ouais, ça m'est arrivé deux fois. Et moi ça me tétanise, hein. Je reste figée, je peux plus bouger, je suis là comme si j'avais volé un truc alors qu'il se passe rien en fait.
Ben, très peu de personnes, du fait qu'on soit discrète, très peu de personnes ont conscience des circulations qu'on fait et ça pose souvent des problèmes. C'était à Neuilly aussi, je me suis retrouvée dans un sas à quelques minutes du spectacle, bloquée, sans réseau, sans rien, et là tu fais, bah, ils vont pas me retrouver.
Ben, c'est vrai, nous par exemple, en tout cas, ça dépend des maisons. Parce qu'il y a des maisons où c'est normal. Mais moi, je me souviens avoir appris mon métier. Nos loges, en fait, elles étaient au 5e étage. La scène était au rez-de-chaussée. Et il y avait un ascenseur. Et on avait interdiction formelle pendant le spectacle de prendre l'ascenseur. Bah, ça dépend. Il y a des maisons où, à Bastille, par exemple, tu prends l'ascenseur systématiquement. Donc ça dépend vraiment des codes maison. Mais en général, ouais, vaut mieux pas, parce que bah, si tu es coincé dans l'ascenseur pendant le spectacle et que tu as des changements, c'est un peu dommage, quoi. Après, il y a un truc aussi, tu sais, que j'ai remarqué. On m'avait offert le restaurant dans le noir. Et le concept du restaurant dans le noir, tu sais, c'est de manger donc dans le noir, en l'occurrence, mais noir profond. Et les personnes avec qui j'étais, elles ont eu du mal pendant l'intégralité du spectacle à pas mettre les mains dans les assiettes, retrouver son verre, pas faire tomber le verre, etc. Et moi, en fait, je peux pas te dire ce que j'ai mangé. Au niveau du goût, je ne sais pas. C'était très bon, hein. Mais par contre, je sais que au niveau géographique, j'étais capable de retrouver mon verre tout de suite, mes couverts, d'amener les choses à ma bouche. Et j'en ai discuté avec une amie il n'y a pas longtemps, qui est aussi maquilleuse, et qui, elle, m'a dit qu'elle avait fait aussi l'expérience et qu'elle avait eu la même chose que moi. Et du coup, je pense quand même qu'il y a une corrélation avec le fait qu'on travaille dans le noir pendant les spectacles, ces changements rapides, etc., où on n'y voit pas forcément. Et je pense qu'on a du coup une espèce de facilité que n'ont pas forcément les autres personnes, et surtout de ne pas être dérangé aussi par ce noir, en fait.
Ça me donne envie d'essayer, parce que c'est vrai que c'est un truc dans la vie quotidienne, je constate, mais c'est beaucoup plus simple.
Parce qu'en plus, les gens, tu les entends, ils font « Oh merde !» Et puis t'entends, ça tombe, ça machine, ça bidule. Et en fait, toi, c'est comme si tu étais à ta place et tout est à sa place, en fait. Et c'est évident. Donc, je l'ai expliqué comme ça, maintenant, j'en sais rien. Mais fais le test. On va voir.
Ça s'est un peu produit sur les premières résidences avec Catherine qui me disait « Tu veux que je remette la lumière ?» Non, c'est bon. C'est rigolo. Mais j'ai envie de tester, du coup. On ira faire ça. Quand même pas mal de compagnies autour de nous là qui se font des semaines, tu vois, de labo, de recherche, c'est bon, costume. Ça arrive petit à petit.
C'est vachement mieux. Moi, c'est marrant parce que j'aurais pas dit ça. Moi, j'aurais dit que, en tout cas, aujourd'hui, si tu veux, par rapport à toujours perruque, maquillage, coiffure, hein, bien sûr, on t'appelle 40 fois dans la journée la même personne. Que tu connais pas, on a donné ton numéro, t'as la personne qui te harcèle vraiment comme si t'allais sauver la planète. Au final, tu décroches. Admettons que tu puisses travailler avec cette personne là Ensuite, bah, toi, tu fais tout pour avant-hier. Déjà, le concept, c'est de tout faire pour avant-hier et avec 3 euros. Et après, toi, tu essayes de joindre la personne si jamais tu as d'autres questions par rapport à l'avancement de ton travail. Là, tu n'as plus de réponse. Puis au bout d'un moment, on te rappelle. Et du coup, c'est de nouveau tout pour avant-hier, en fait. Il y a un espèce de truc qui, moi, me dépasse un peu parce que moi, mon métier, je l'adore. J'ai tellement de chance de faire ce métier-là, de pouvoir en vivre, de pouvoir faire des choses exceptionnelles et complètement différentes à chaque fois. Mais du coup, travailler comme ça, dans cette urgence pour tout avant-hier, et surtout avec cette espèce d'ego de « je sauve la planète systématiquement », ça t'éloigne un petit peu du bonheur que te procure ta passion. Tu profites beaucoup moins de ce que tu vas pouvoir faire parce que moi c'est vrai que j'aime bien le challenge, donc faire plein de choses qu'on n'a jamais faites, et du coup ces moments de recherche etc, tu n'y es pas pleinement, je sais pas comment dire, en fait il faut courir après quoi, pourquoi je sais pas. Avant, on avait la possibilité, on nous donnait le temps de pouvoir travailler et profiter de justement aimer vraiment pleinement ce qu'on fait. Là, il y a plusieurs projets où ils sont tous aussi passionnants les uns que les autres. Ils sont tous pour moi autant prioritaires les uns que les autres. Mais il y a un moment où tu peux pas aller jusqu'au bout. Parce qu'une journée, c'est 24 heures, c'est pas plus. Et que, que t'es humain et qu'il faut dormir de temps en temps. Et donc ça, c'est un peu dommage. Cette façon, maintenant, d'être là, travailler comme ça, je trouve que c'est plus compliqué qu'avant.
Et aussi parce que c'est des métiers, des savoir-faire qui demandent du temps. Et pour la réalisation, et pour créer, imaginer. C'est tout de suite, tout le temps. On doit être des magiciennes, et c'est exactement pareil dans le costume. Avoir la solution du premier coup. Voilà, les situations où c'est le pire, c'est quand on me demande de faire de l'achat. Parce que là, on me comprend encore moins. On dit, mais de l'achat. Donc maintenant, moi, ce que je fais, c'est que j'emmène, quand je peux, les artistes, tout ça, avec moi. Faire les magasins. Déjà, parce que ça me fait gagner du temps, des allers-retours, quand c'est possible. Et ils prennent conscience, ils font « Ah, j'avais pas... » Je dis « C'est pas du shopping pour savoir ce que tu vas mettre au mariage de ta cousine. C'est autre chose. Trouver le bon élément qui tombe bien. » Là, en fait, on peut y passer une semaine, 10 jours. Peut-être que j'aurais mieux fait de te le fabriquer, en fait. Et ça fait repenser un peu la chose. Mais ça demande un effort d'éduquer. C'est un peu fatigant.
Je suis assez d'accord qu'aujourd'hui... Mais alors moi, c'est un exercice que je fais systématiquement. Ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, le fait d'essayer de partager un maximum ce qu'est mon métier avec des gens, avec tous les gens d'ailleurs, hein, des gens du métier ou non. Oui, souvent, quand on m'appelle, je vais faire du pédagogique avec la personne qui m'a contactée. Alors souvent des administrateurs, des régisseurs... Voilà, expliquer si on a une perruque, quel est l'enjeu, qu'est-ce que ça va engendrer, quels sont les soins qu'il va falloir apporter, les choses comme ça. Mais ça, c'est un exercice que je fais en amont, moi. Par contre, systématiquement, de façon à encadrer bien le projet dès le départ. De ne pas avoir de surprise en plein milieu où on me dit « Ah ben non, j'étais pas au courant, ça sera pas possible budgétairement, voilà ». Mais c'est vrai que ça, je le fais systématiquement. Systématiquement, ouais. Mais avant, on ne le faisait pas. Avant, il n'y avait pas besoin. Parce que les gens savaient. Aujourd'hui, ils ne savent pas. Ils ne savent pas, et si tu ne le fais pas, ils ne te posent pas les bonnes questions. Enfin, ils ne te posent pas de questions tout court, ils ne s'intéressent pas. Mais par contre, ils te mettent devant le fait accompli. Quand... t'as besoin à un moment donné, par exemple, de racheter des produits ou quoi, okay, parce que y en a plus. Là, ils te disent, non, c'est pas possible. Mais alors qu'ils ne t'ont pas posé la question au départ. Si tu tournes si tu fais 10 dates ou si tu tournes 3 ans avec un spectacle, c'est une évidence que le budget sera différent. Parce que tu as le budget de la création, mais tu as aussi le budget de l'exploitation. Et donc, moi, systématiquement, je fais du pédagogique comme ça, de façon ensuite à m'assurer une pérennité dans mon travail et pas de mauvaise surprise de « j'étais pas au courant ». Quoi.
Est-ce que tu as des anecdotes, genre les pires? Genre une anecdote la pire, quoi. Vraiment pas cool. Et une autre qui est absolument incroyable et qui te ferait...
Je peux te dire, une situation terrible, c'est de travailler avec des gens qui sont pas humains. C'est de travailler avec des gens qui n'aiment pas les gens, en fait, dans mon métier. Ça, c'est terrible pour moi. Surtout qu'en plus, mon métier, c'est de les toucher. Donc, ça devient d'autant plus compliqué. Une situation extraordinaire, ben, c'est tout ce que je fais. J'ai cette chance, hein, c'est de faire que des choses que j'aime. Et j'ai cette chance... pour l'instant, de pouvoir trier aussi ce que je fais. Donc pour moi, je vais avoir le même bonheur à travailler, que ce soit dans une grosse institution ou pour des jeunes artistes qui n'ont pas d'argent. Quoi. C'est le partage, c'est l'ensemble, la découverte, le challenge, les rencontres. Les lieux, c'est exceptionnel. Enfin, c'est tout, quoi. C'est vraiment là, c'est tout.